Histoire de la Réformation du XVIe siècle, Livre 9, Chapitre 7. Fausse Réforme, les nouveaux prophètes, les prophètes à Wittenberg, Mélenchon, l'électeur, Luther, Karlstadt et les images, désordre, on appelle Luther, il n'hésite pas, danger. Cependant, des hommes prévenus eussent pu ne voir dans l'œuvre qui s'accomplissait que l'effet d'un vain enthousiasme. L'effet même devait prouver le contraire et démontrer qu'il y a un abîme entre une réformation fondée sur la parole de Dieu et une exaltation fanatique. Lorsqu'une grande fermentation religieuse s'accomplit dans l'Église, quelques éléments impurs se mêlent toujours aux manifestations de la vérité. On voit surgir une ou plusieurs fausses réformes provenant de l'homme et qui servent de témoignage ou de contre-saint à la réforme véritable. Ainsi, plusieurs faux messies attestèrent au temps de Christ que le vrai Messie avait paru. La réformation du XVIe siècle ne pouvait s'accomplir sans présenter un tel phénomène. Ce fut dans la petite ville de Zwickau qu'il se manifesta. Il s'y trouva quelques hommes qui, agités par les grands événements qui remuaient alors la chrétienté, aspirèrent à des révélations directes de la divinité, au lieu de rechercher avec simplicité la sanctification du cœur, et qui prétendirent être appelés à compléter la réformation faiblement ébauchée par Luther. « À quoi bon, disait-il, s'attacher si étroitement à la Bible ? La Bible, toujours la Bible, la Bible peut-elle nous parler ? N'est-elle pas insuffisante pour nous instruire ? Si Dieu eût voulu nous enseigner par un livre, ne nous eût-il pas envoyé du ciel une Bible ? C'est par l'Esprit seul que nous pouvons être illuminés. Dieu lui-même nous parle. Dieu lui-même nous révèle ce que nous devons faire et ce que nous devons dire. » Ainsi, comme les partisans de Rome, ces fanatiques attaquaient le principe fondamental sur lequel toute la réformation repose, la pleine suffisance de la parole de Dieu. Un simple fabricant de draps, nommé Nicolas Storck, annonça que l'ange Gabriel lui était apparu pendant la nuit, et qu'après lui avoir communiqué des choses qu'il ne pouvait encore révéler, il lui avait dit « Toi, tu seras assis sur mon trône ». Un ancien étudiant de Wittenberg, nommé Marc Stubner, s'unit à Storck et abandonna aussitôt ses études. « Car il reçut immédiatement de Dieu, dit-il, le don d'interpréter les saintes Écritures. » Marc Thomas, fabricant de draps, vint grossir leur nombre. Et un nouvel adepte, Thomas Munzer, homme d'un esprit fanatique, donna une organisation régulière à cette secte nouvelle. Storck, voulant suivre l'exemple de Christ, choisit parmi ses adhérents 12 apôtres et 72 disciples. Tous annoncèrent hautement, comme l'a fait une secte de nos jours, que des apôtres et des prophètes étaient enfin rendus à l'Église de Dieu. Bientôt les nouveaux prophètes, prétendant marcher sur les traces des anciens, firent entendre leur message. « Malheur, malheur, disaient-ils, une Église gouvernée par des hommes aussi corrompus que le sont les évêques ne peut être l'Église de Christ. Les magistrats impies de la chrétienté vont être renversés. Dans 5, 6 ou 7 ans, une désolation universelle éclatera dans le monde. Le Turc s'emparera de l'Allemagne. Tous les prêtres seront mis à mort, même ceux qui sont mariés. Nul impie, nul pécheur ne demeurera vivant. Et après que la terre aura été purifiée par le sang, Dieu y établira un royaume. Storck sera mis en possession de l'autorité suprême et remettra à des saints le gouvernement des peuples. Alors il n'y aura plus qu'une foi et qu'un baptême. Le jour du Seigneur est proche, et nous touchons à la fin du monde. Malheur, malheur, malheur. » Puis déclarant que le baptême reçu dans l'enfance était de nulle valeur, les nouveaux prophètes invitèrent tous les hommes à venir recevoir de leurs mains le baptême véritable, en signe d'introduction dans la nouvelle Église de Dieu. Ces prédications firent une vive impression sur le peuple. Quelques âmes pieuses furent émues à la pensée que des prophètes étaient rendus à l'Église, et tous ceux qui aimaient le merveilleux se précipitèrent dans les bras des hommes excentriques de Zwickau. Mais à peine cette vieille hérésie, qui avait déjà paru au temps du montanisme et dans le Moyen-Âge, eut-elle retrouvé des sectateurs, qu'elle rencontra dans la Réformation un puissant adversaire. Nicolas Haussmann, à qui Luther rendait ce beau témoignage, « Ce que nous enseignons, il le fait », était pasteur de Zwickau. Cet homme de bien ne se laissa pas égarer par les prétentions des faux prophètes. Il arrêta les innovations que Storck et ses adhérents voulaient introduire, et ses deux diacres agirent d'accord avec lui. Les fanatiques, repoussés par les ministres de l'Église, se jetèrent alors dans un autre excès. Ils formèrent des assemblées où des doctrines subversives étaient professées. Le peuple s'émut, des troubles éclatèrent, un prêtre qui portait le Saint-Sacrement fut assailli de coups de pierre. L'autorité civile intervint et jeta les plus violents en prison. Indigné de cet acte et impatient de se justifier et de se plaindre, Storck, Marc Thomas et Stubner se rendirent à Wittenberg. Ils y arrivèrent le 27 décembre 1521. Storck marchait en tête avec la démarche et le maintien d'un lansquenet. Marc Thomas et Stubner le suivaient. Le trouble qui régnait dans Wittenberg favorisait leur dessein. La jeunesse académique et la bourgeoisie, profondément émues et déjà en fermentation, étaient un sol bien préparé pour les nouveaux prophètes. Se croyant sûrs de leur appui, ils se rendirent aussitôt vers les professeurs de l'université afin d'obtenir leur témoignage. « Nous sommes, dirent-ils, envoyés de Dieu pour instruire le peuple. Nous avons avec le Seigneur des conversations familières. Nous connaissons les choses à venir. En un mot, nous sommes apôtres et prophètes et nous en appelons au docteur Luther. » Ce langage étrange étonna les docteurs. « Qui vous a ordonné de prêcher ?» demanda Mélenchon à Stubner, son ancien étudiant, qu'il reçut dans sa maison. « Notre Seigneur Dieu, avez-vous écrit des livres ?»« Notre Seigneur Dieu me l'a défendu. » Mélenchon est ému, il s'étonne et s'effraye. « Il y a, dit-il, des esprits extraordinaires dans ces hommes. Mais quels esprits ? Luther seul peut en décider. D'un côté, prenons garde d'éteindre l'esprit de Dieu, et de l'autre, d'être séduit par l'esprit du diable. » Storck, d'un caractère remuant, quitta bientôt Wittenberg. Stubner y demeura. Animé d'un ardent prosélytisme, il parcourait toute la ville, parlant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, et plusieurs le reconnaissaient comme prophète de Dieu. Il s'adressa surtout à un souabe, nommé Cellarius, ami de Mélenchon, qui tenait une école où il instruisait dans les lettres un grand nombre de jeunes gens et qui bientôt admit pleinement la mission des nouveaux apôtres. Mélenchon était de plus en plus incertain et inquiet. Ce n'était pas tant les visions des prophètes de Zwickau qui l'agitaient que leur nouvelle doctrine sur le baptême. Elle lui semblait conforme à la raison et il trouvait qu'il valait la peine d'examiner la chose. Car, disait-il, il ne faut rien admettre ni rien rejeter à la légère. Tel est l'esprit de la Réformation. Il y a, dans ses hésitations et ses angoisses de Mélenchon, une preuve de la droiture de son cœur, qu'il honore plus, peut-être, qu'une opposition systématique n'eût pu le faire. Les lecteurs, que Mélenchon nommait « la lampe d'Israël », hésitait lui-même. Des prophètes, des apôtres, dans l'électorat de Saxe, comme autrefois à Jérusalem? C'est une grande affaire, dit-il, et comme laïc, je ne saurais la comprendre. Mais plutôt que d'agir contre Dieu, je prendrais un bâton à la main et j'abandonnerais mon trône. Enfin, il fit dire au docteur, par ses conseillers, qu'on avait à Wittenberg assez d'embarras sur les bras, qu'il était fort probable que les prétentions des hommes de Zwickau n'étaient qu'une séduction du diable, et que le parti le plus sage lui semblait être de laisser tomber toute cette affaire. Néanmoins, qu'en toute circonstance où son Altesse verrait clairement la volonté de Dieu, elle ne prendrait conseil ni de frère ni de mère, et qu'elle était prête à tout souffrir pour la cause de la vérité. Luther apprit à la Wartburg l'agitation qui régnait à la cour et à Wittenberg. Des hommes étranges avaient paru, et l'on ne savait d'où venait leur message. Il comprit aussitôt que Dieu avait permis ces tristes événements pour humilier ses serviteurs, et pour les exciter par l'épreuve à rechercher davantage la sanctification. « Votre grâce électorale, écrivit-il à Frédéric, a fait chercher pendant longues années des reliques en tout pays. Dieu a exaucé vos désirs et vous a envoyé sans frais et sans peine une croix tout entière, avec des clous, des lances et des fouets. Grâce et prospérité pour la nouvelle relique. Seulement que votre Altesse étende sans crainte ses bras et laisse les clous s'enfoncer dans sa chair. Je me suis toujours attendu à ce que Satan nous enverrait cette plaie. Mais, en même temps, rien ne lui parut plus urgent que d'assurer aux autres la liberté qu'il réclamait pour lui-même. Il n'avait pas deux poids et deux mesures. Qu'on se garde de les jeter en prison, écrit-il à Spalatin. Que le prince ne trempe pas sa main dans le sang de ses nouveaux prophètes. Luther devança de beaucoup son siècle et même plusieurs autres réformateurs au sujet de la liberté religieuse. Les circonstances devenaient de plus en plus graves à Wittenberg. Karlstadt rejetait plusieurs des doctrines des nouveaux prophètes et en particulier leur anabaptisme. Mais il y a dans l'enthousiasme religieux quelque chose de contagieux, dont une tête comme la sienne ne pouvait aisément se défendre. Dès que les hommes de Zwickau furent arrivés à Wittenberg, Karlstadt précipita sa marche dans le sens des réformes violentes. « Il faut, disait-il, fondre sur toutes les coutumes impies et les renverser en un jour. » Il rappelait tous les passages de l'Écriture contre les images et s'élevait avec une énergie croissante contre l'idolâtrie de Rome. « On s'agenouille, on rampe devant ces idoles, s'écriait-il. On leur allume des cierges, on leur présente des offrandes. Levons-nous et arrachons-les de leurs autels. » Ces paroles ne retentirent pas en vain aux oreilles du peuple. On entra dans les églises, on enleva les images, on les brisa, on les brûla. Il eût mieux valu attendre que leur abolition eût été légitimement prononcée. Mais on trouvait que la lenteur des chefs compromettait la réformation elle-même. Bientôt, à entendre ces enthousiastes, il n'y eut plus dans Wittenberg de vrais chrétiens que ceux qui ne se confessaient pas, qui poursuivaient les prêtres et qui mangeaient de la viande les jours de maigre. Quelqu'un était-il soupçonné de ne pas rejeter comme invention du diable toutes les pratiques de l'Église? C'était un adorateur de Baal. « Il faut, s'écriait-il, former une Église qui ne soit composée que de saints. » Les bourgeois de Wittenberg présentèrent au Conseil quelques articles auxquels il dut adhérer. Plusieurs de ces articles étaient conformes à la morale évangélique. On demandait en particulier que l'on fermât toutes les maisons de divertissement public. Mais bientôt Karlstadt alla plus loin encore. Il se mit à mépriser les études, et l'on vit le vieux professeur conseiller, du haut de sa chaire, à ses étudiants de retourner chez eux, de reprendre la bêche, de pousser la charrue et de cultiver tranquillement la terre, puisque c'était à la sueur de son front que l'homme devait manger son pain. Le maître d'école des garçons à Wittenberg Georges Mohr, entraîné par le même vertige, criait de la fenêtre de son école aux bourgeois assemblés de venir reprendre leurs enfants. À quoi bon les faire étudier puisque Storck et Stubner n'avaient jamais été à l'université et que pourtant ils étaient prophètes? Un artisan valait donc autant et mieux peut-être que tous les docteurs du monde pour prêcher l'évangile. Ainsi s'élevaient des doctrines directement opposées à la réformation. La Renaissance des lettres l'avait préparé. C'était avec les armes de la science théologique que Luther avait attaqué Rome. Et les enthousiastes de Wittenberg, comme les moines fanatiques qu'Érasme et Reuchlin avaient combattus, prétendaient fouler aux pieds toutes les connaissances humaines. Si le vandalisme venait à s'établir, l'espérance du monde était perdue, et une nouvelle invasion des barbares allait étouffer la lumière que Dieu avait rallumée dans la chrétienté. On vit bientôt les effets de ces étranges discours. Les esprits étaient préoccupés, agités, détournés de l'Évangile. L'académie était désorganisée. Les étudiants démoralisés se débandaient et se dispersaient, et les gouvernements de l'Allemagne rappelaient leurs ressortissants. Ainsi les hommes qui voulaient tout réformer, tout vivifier, allaient tout détruire. Encore un dernier effort, s'écriaient les amis de Rome, qui de tous côtés reprenaient courage. Encore un dernier effort, et tout sera gagné. Réprimer promptement les excès des fanatiques était le seul moyen de sauver la réforme. Mais qui pouvait le faire? Mélenchon? Il était trop jeune, trop faible, trop agité lui-même par ses étranges apparitions. L'électeur? Il était l'homme le plus pacifique de son siècle. Bâtir ses châteaux d'Altenbourg, de Weimar, de Locao et de Cobourg, orner ses églises des beaux tableaux de Luca Cranach, perfectionner le chant de ses chapelles, faire fleurir son université, rendre heureux son peuple, s'arrêter même au milieu des enfants qu'il rencontrait jouant sur la route et leur distribuer de petits présents. Telles étaient les plus douces occupations de sa vie. Et maintenant, dans son âge avancé, il en viendrait aux mains avec des hommes fanatiques? Il opposerait la violence à la violence? Comment le bon, le pieux Frédéric eût-il pu s'y résoudre? Le mal continuait donc, et personne ne se présentait pour l'arrêter. Luther était absent de Wittenberg. Le trouble et la ruine avaient envahi la cité. La Réformation avait vu naître dans son sein un ennemi plus redoutable que les papes et que les empereurs. Elle se trouvait sur le bord de l'abîme. « Luther ! Luther ! » s'écriait-on unanimement à Wittenberg. Les bourgeois le demandaient avec instance. Les docteurs réclamaient ses conseils. Les prophètes eux-mêmes en appelaient à lui. Tous le suppliaient de revenir. On peut comprendre ce qui se passait dans l'esprit du réformateur. Toutes les rigueurs de Rome n'étaient rien en comparaison de ce qui maintenant affligeait son âme. C'est du milieu de la réformation même que sortent ses ennemis. Elle déchire ses propres entrailles. Et cette doctrine, qui seule a rendu la paix à son cœur agité, devient pour l'Église l'occasion de troubles funestes. « Si je savais, avait-il dit, que ma doctrine nuisit à un homme, à un seul homme simple et obscur, ce qui ne peut être, car elle est l'Évangile même, plutôt 10 fois mourir que de ne pas la rétracter. Et maintenant, toute une ville, et cette ville est Wittenberg, tombe dans l'égarement. Sa doctrine n'y est pour rien, il est vrai, mais de tous les points de l'Allemagne, des voix s'élèvent pour l'accuser. Des douleurs plus vives que toutes celles qu'il a jamais ressenties l'assaillent alors, et des tentations toutes nouvelles l'agitent. Serait-ce donc là, se dit-il, la fin à laquelle devait aboutir l'œuvre de la Réformation? Mais non, il rejette ses doutes. Dieu a commencé, Dieu accomplira. Je me traîne en rampant vers la grâce de l'Éternel, s'écrie-t-il. et je lui demande que son nom demeure attaché à cette œuvre, et que s'il y est mêlé quelque chose d'impur, il se souvienne que je suis un homme pécheur. » Ce qu'on écrivait à Luther de l'inspiration des nouveaux prophètes et de leurs entretiens sublimes avec Dieu ne l'ébranla pas un moment. Il connaissait les profondeurs, les angoisses et les humiliations de la vie spirituelle. Il avait fait à Erfurt et à Wittenberg des expériences de la puissance de Dieu, qui ne lui laissait pas croire si facilement que Dieu apparut à la créature et s'entretint avec elle. « Demande-leur, écrivit-il à Mélenchon, s'ils ont éprouvé ces tourments spirituels, ces créations de Dieu, ces morts et ces enfers qui accompagnent une régénération véritable. Et s'ils ne te parlent que de choses agréables, d'impressions tranquilles, de dévotion et de piété, comme ils disent, ne les crois pas, quand même ils prétendraient avoir été ravis au troisième ciel. Pour que Christ parvînt à sa gloire, il a dû passer par la mort. Ainsi le fidèle doit passer par l'angoisse du péché avant de parvenir à la paix. Veux-tu connaître le temps, le lieu, la manière dont Dieu parle avec les hommes? Écoute. Il a brisé tous mes os comme un lion. Je suis rejeté de devant sa face, et mon âme est abaissée jusqu'aux portes de l'enfer. Non, la majesté divine, comme il l'appelle, ne parle pas à l'homme immédiatement, en sorte que l'homme la voie. Car nul homme, dit-elle, ne peut me voir et vivre. Mais la conviction de l'erreur où se trouvaient les prophètes ne faisait qu'augmenter la douleur de Luther. La grande vérité d'un salut par grâce a-t-elle donc si promptement perdu ses attraits que l'on s'en détourne pour s'attacher à des fables? Il commence à éprouver que l'œuvre n'est pas si facile qu'il l'avait cru d'abord. Il se heurte contre cette première pierre que les égarements de l'esprit humain viennent placer sur sa route. Il s'afflige. Il est dans l'angoisse. Il veut, au prix de sa vie, l'ôter du chemin de son peuple et se décide à retourner à Wittenberg. De grands dangers le menaçaient alors. Les ennemis de la Réformation se croyaient prêts de la détruire. Georges de Saxe, qui ne voulait ni de Rome ni de Wittenberg, avait écrit dès le 16 octobre 1521 au duc Jean, frère de l'électeur, pour l'entraîner dans les rangs des ennemis de la Réforme. Les uns, lui avait-il dit, nient que l'âme soit immortelle. D'autres, et ce sont des moines, traînent les reliques de saint Antoine avec des grelots et des cochons et les jettent dans la boue. Et tout cela provient de la doctrine de Luther. Suppliez votre frère l'électeur ou de punir les auteurs impies de ses innovations ou de faire connaître publiquement le fond de sa pensée. Nos barbes et nos cheveux qui blanchissent nous avertissent que nous avons atteint le dernier quartier de la vie et nous pressent de mettre fin à tant de maux. Puis Georges partit pour siéger au sein du gouvernement impérial établi à Nuremberg. À peine arrivé, il mit tout en œuvre pour lui faire adopter des mesures sévères. En effet, ce corps rendit, le 21 janvier, un édit où il se plaignait amèrement de ce que des prêtres disaient la messe sans être revêtus de l'habit sacerdotal, consacraient le Saint-Sacrement en langue allemande, le donnaient sans avoir reçu la confession nécessaire, le plaçait dans des mains laïques et ne s'inquiétait pas même si ceux qui se présentaient pour le prendre étaient à jeun. Le gouvernement impérial sollicitait en conséquence les évêques de rechercher et de punir avec rigueur tous les novateurs qui pourraient se trouver dans leur diocèse respectif. Ceux-ci s'empressèrent de se conformer à ces ordres. Tel était le moment que Luther choisissait pour reparaître sur la scène. Il voyait le danger. Il prévoyait d'immenses désastres. « Il y aura bientôt dans l'Empire, disait-il, un tumulte qui entraînera pêle-mêle princes, magistrats, évêques. Le peuple a des yeux. Il ne peut être mené par la force. L'Allemagne nagera dans son sang. plaçons-nous comme un mur pour sauver notre nation dans ce jour de la grande fureur de l'Éternel.